France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h. Au programme aujourd'hui, une question d'actualité pour commencer. Alors que la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump a eu lieu il y a quelques jours, comment et pourquoi la Chine parvient-elle à garder la main lors des négociations? Nous en parlerons avec Alice Ekman et Benjamin Burbaumer. Et puis, dans une seconde partie, retour sur une vaste question. De quoi notre modèle social est-il le nom? Assurer le bien-être de la population est-elle la mission suprême des institutions, des souverains et des États, et surtout la garantie d'un minimum de cohésion sociale? Seront évoquées les figures de Bossuet, Montesquieu, Proudhon ou encore Simone Veil, en compagnie d'Alain Supiot, professeur au Collège de France, qui sera notre invité du jour. Mais avant cela, une parenthèse pour revenir sur l'actualité de la semaine passée, une actualité très culturelle. Mercredi dernier, les employés de Paramount, emblématique studio hollywoodien, ont reçu une note leur signifiant que le temps de la réduction d'effectifs était venu. 2000 employés devraient ainsi être licenciés, à commencer par une première salve de 1000 personnes à CBS News, au sein du studio de cinéma Paramount, et des chaînes câblées comme MTV ou Nickelodeon, dont Paramount est propriétaire. Une décision qui s'inscrit dans la continuité de la fusion avec la société de production Skydance Media, survenue en juillet 2024. À l'époque, c'est la banque d'investissement Willis & Company qui avait accompagné Skydance dans la manœuvre, et c'est elle aussi que l'on retrouve cette semaine, cette fois-ci aux côtés de Netflix, qui, on l'apprenait vendredi, s'intéresserait de près au studio Warner Bros. Et à sa division streaming, car depuis le 21 octobre dernier, le studio, lui aussi emblématique, 102 ans au compteur tout de même, a indiqué qu'il envisageait de vendre. Netflix n'est pas seul sur les rangs, puisque Comcast, qui possède Universal Pictures, et Amazon Studios, qui possède la Metro-Goldwyn-Mayer, et également Paramount, le revoilà, sont également intéressés. Tout cela a provoqué un certain émoi, teinté d'une forme de nostalgie vis-à-vis de l'âge d'or d'Hollywood, mais aussi une réelle inquiétude de la part de la Writers Guild of America, qui craint pour les auteurs autant que pour les consommateurs. Ce sont les mots de son communiqué publié jeudi dernier, sur fond de menaces que représenterait l'intelligence artificielle. Une menace bien réelle du côté de l'industrie musicale. Jeudi 30 octobre, Universal Music Group et Udio, principale start-up de musique basée sur l'IA, ont annoncé le lancement d'une plateforme de création par intelligence artificielle entraînée à partir de musique autorisée et sous licence. Et c'est une première, nous apprend Libération. Des accords qui, selon le président d'Universal Music Group, démontrent notre engagement à faire ce qui est juste pour nos artistes et auteurs-compositeurs, adopter de nouvelles technologies, développer de nouveaux modèles commerciaux, diversifier les sources de revenus ou au-delà, discours que Libé n'a pas hésité à qualifier de gloubi-boulga motivationnel. Et l'Europe, dans tout ça, eh bien l'Europe sert littéralement de décor. C'est à Madrid que Woody Allen tournera son prochain film moyennant finance. La capitale espagnole dirigée par la conservatrice Isabel Díaz Ayuso versera 1,5 million d'euros à la production. En échange de quoi, le titre du film devra mentionner le nom de Madrid et participer à la promotion de Madrid comme destination de voyage. C'est ce que stipule le contrat. Une stratégie guerre nouvelle pour un pays qui a bien compris les mannes symboliques et financières que peuvent lui apporter le cinéma, et dont nous avons parlé dans cette émission en avril dernier avec les chercheuses Nassima Baron et Ivan Galland. La fiction alimente donc littéralement la réalité. D'ailleurs, je vous parlais de Paramount, et Paramount, c'est ça. Le parrain de Francis Ford Coppola est la fameuse offre que nul ne peut refuser. Hier, Les Échos relayaient une étude publiée le 22 octobre dernier par trois chercheurs de l'université Bocconi à Milan et deux membres de l'unité d'intelligence financière de la Banque d'Italie. Ils mettent en lumière un mécanisme implacable. Lorsque la conjoncture économique s'assombrit, la capacité d'emprunt de certaines entreprises s'effondre avec elle, et la note qui est attribuée à la qualité de leur crédit. Leur probabilité d'être infiltrée par la mafia augmente alors de 5%. c'est deux fois plus dans l'immobilier, écrivent les Échos, qui relaient ce chiffre. Près de 100 000 entreprises italiennes seraient aujourd'hui infiltrées par la mafia. Résultat relativement étonnant, les entreprises concernées ont moins de chances de faire faillite que celles qui ont aussi vu leur note de crédit dégradée dans la même mesure. Et surtout, elles embauchent davantage pour services rendus. L'économie, source inépuisable d'inspiration pour la fiction, la chose n'est donc plus à démontrer. Et je referme là la parenthèse, place à notre question du jour. Négociation commerciale, pourquoi la Chine est-elle en position de force ?
France Culture, entendez-vous l'écho ? Aliette Ovine.
Fin des hostilités, du moins pour le moment, c'est le bilan de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump qui a eu lieu jeudi dernier le 30 octobre. Pas d'accord formel, rien n'est pour l'instant couché sur le papier, mais les promesses sont là. Suspension des mesures de contrôle sur les exportations de terres rares chinoises, baisse de la surtaxe sur les biens chinois importés aux États-Unis, achat massif de soja américain par la Chine. Donald Trump a qualifié la rencontre de géniale, mais semble s'être surtout heurté aux limites de sa stratégie de la loi du plus fort, car la Chine forte justement de ressources stratégiques dont elle détient le quasi-monopole et de sa vision politique de long terme semble avoir d'autres combats à mener. Alors de la guerre commerciale à la guerre technologique, quel est le véritable combat de Xi Jinping et comment la Chine est-elle parvenue à s'imposer dans des négociations qui partout ailleurs dans le monde mettent les dirigeants en difficulté? Des questions que nous allons poser à nos deux invités. Benjamin Burbomer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur au centre Émile Durkheim. On vous doit un ouvrage intitulé « Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation » paru l'année dernière à La Découverte. Également avec nous, Alice Ekman. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et spécialiste de la Chine donc, et autrice de « Dernier vol pour Pékin » paru chez Flammarion.
Vous voyez ce champ ? Un quart était destiné à être livré en Chine. Et à ce jour, la Chine n'a rien commandé. Les perspectives de prix sont très mauvaises. Le prix de notre produit est inférieur au coût de production. Et nous allons perdre de l'argent sur les cultures que nous récoltons en 2025. Je déteste demander de l'aide, donc j'aimerais un accord commercial pour pouvoir vendre nos graines. S'il vous plaît.
Il n'y a plus de blocage sur les terres rares. Ça va disparaître de notre vocabulaire. C'est un accord d'un an et nous l'étendrons ensuite. Les droits de douane étaient de 57%. Ils passent à 47%. Nous les avons réduits par rapport au fentanyl. Car je crois qu'ils prennent vraiment des mesures à ce sujet. On le voit déjà.
Monsieur le Président, je suis prêt à continuer à travailler avec vous pour établir une base solide pour les relations entre la Chine et les États-Unis et créer une atmosphère propice au développement des deux pays.
Les voix donc de Donald Trump juste après cette fameuse réunion et de Xi Jinping juste avant l'ouverture des pourparlers. Alice Ekman, on entendait aussi un agriculteur américain en difficulté face aux restrictions d'importation de soja mises en place par la Chine. Soja qui jusqu'ici était surtaxé à hauteur de 20% par la Chine. Donc d'un côté on a cette inquiétude des agriculteurs américains. De l'autre, face aux restrictions drastiques d'exportation des terres rares chinoises vers les États-Unis annoncées, on le rappelle, le jeudi 9 octobre, s'était succédé tout un tas de déclarations de la part de certains acteurs du secteur comme Microsoft, Amazon, Google, qui avaient déclaré vouloir réduire leur approvisionnement chinois. Moi, ce que je voudrais comprendre, Alice Ekman, c'est finalement qui avait le plus la pression entre les États-Unis, Donald Trump, avec potentiellement la colère des agriculteurs, et la Chine qui pouvait potentiellement voir des acteurs majeurs du numérique partir, qui avait tout intérêt à ce que ces accords débouchent sur quelque chose de positif.
Non, en fait, on est dans des phases de négociations très tendues, des négociations où chacun essaye de défendre ses intérêts. Les États-Unis, ont menacé la Chine de droits de douane très importants depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La Chine a cherché à jouer au maximum sur les secteurs vis-à-vis duquel l'industrie américaine n'est plus dépendante, notamment le secteur de la tech, en fait. Donc elle a joué sur le fait qu'elle avait en effet le quasi-monopole sur les terres rares, en tout cas sur la production, le raffinage des terres rares, puisque 90% des terres rares mondiales sont produites par la Chine.
Une position de force absolue.
Et donc oui, non, mais c'est-à-dire il faut bien comprendre l'enchaînement des événements, c'est-à-dire que la menace du 9 octobre de la Chine, c'était en amont de ces négociations là pour justement amener les États-Unis à réduire les droits de douane. Mais encore une fois, il n'y a pas d'accord formel. C'est une trêve dans des tensions commerciales qui durent depuis très longtemps, déjà depuis Trump 1, mais aussi qui ont été prolongée par Joe Biden, c'est important à rappeler parce qu'en fait, indépendamment du président en place, il y a des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui sont très fortes. Il n'y a pas d'accord formel signé. Quand il y avait eu un accord qui avait été signé à la fin du premier mandat de Donald Trump, celui-ci n'avait pas été respecté par la Chine, en partie dû au Covid, mais aussi plus largement compte tenu de tensions politiques très fortes. Aujourd'hui, oui, la Chine s'engage à acheter du soja américain. On va voir comment cela est appliqué. En même temps, voilà, les menaces de part et d'autre demeurent relativement. Donald Trump va se rendre en Chine, devrait se rendre en Chine pour une visite en avril. Et à ce moment-là, on y verra plus clair, à la fois sur les engagements formels et l'application de ces engagements, mais aussi sur les sujets politiques et géostratégiques qui pourraient nuire à ces engagements. Je pense bien sûr aux tensions autour du détroit de Taïwan et puis plus généralement à la relation qu'entretient la Chine avec la Russie.
Et effectivement, ces négociations-là se sont déroulées dans un contexte géopolitique relativement tendu. Benjamin Burbaumer, pour qu'on comprenne bien finalement ce qui s'est joué aussi lors de cette réunion, lors de cette rencontre entre les deux dirigeants, dans quelle mesure la Chine a-t-elle nécessairement besoin que les géants américains du numérique produisent sur son sol ou s'approvisionnent chez elle ? Est-ce que c'était ça la source de tensions majeures pour Xi Jinping ?
Mais il me semble que tout d'abord, il convient de dire que cette trêve de Corée n'en est pas vraiment une. On a plutôt un déplacement du front, on va du front commercial vers le front technologique. Et il est important de comprendre que le front technologique n'est pas seulement une question sectorielle, c'est pas seulement le secteur du numérique qui est concerné, mais aujourd'hui, le secteur du numérique a le potentiel d'irriguer le tissu économique de façon généralisée. Et donc, celui qui détient la supériorité technologique dans le numérique a en réalité la supériorité productive. Et c'est ça le véritable enjeu qui est souvent éclipsé par la bruyante guerre commerciale, mais auquel on revient là de façon très claire. Et quand on regarde l'évolution précisément des discussions de la semaine dernière, eh bien, il est fascinant parce que on a deux versions différentes de l'histoire. Vous allez sur le site de la Maison Blanche, il y a des annonces
forcément
qui diffèrent du...
Ça fait partie du jeu, potentiellement, Benjamin Burbaumer.
Tout à fait. L'histoire. Mais donc, tout est prédéterminé pour qu'on ait assez rapidement à nouveau des tensions. Parce que précisément, il n'y a même pas d'accord sur les engagements que les uns et les autres ont pris. Il y a deux versions différentes.
Mais Benjamin Burbaumer, vous avez insisté sur la notion de supériorité technologique. On pourrait se dire que de facto, c'est la Chine qui la détient à partir du moment où elle a cette espèce de situation de monopole dont on parlait notamment sur les terres rares. Il n'y a même pas tellement lieu de discussion. La Chine partait en position de force.
Mais je nuancerai un petit peu parce que dans la bataille technologique, il y a évidemment le goulet d'étranglement des matières critiques, des matières stratégiques, mais il y a aussi l'autre goulet d'étranglement qui est celui des technologies de pointe. Et dans les technologies de pointe, malgré un essor technologique spectaculaire de la Chine sur les 20 dernières années, la Silicon Valley reste la force dominante. Et c'est important aussi, Donald Trump n'a rien cédé sur les restrictions d'exportation des technologies de pointe, alors que la Chine, elle, semble-t-il, a cédé en partie sur les terres rares.
Alice Ekman, si on se lance dans la politique fiction, c'est un exercice toujours périlleux, mais tentons tout de même. Il y a une mesure qui a beaucoup, qui a fait les gros titres aussi des médias, c'est cette idée que les droits de douane sur les produits chinois ont été ramenés à 47%, s'il s'agit d'une baisse de 10%. Très concrètement, Alice Ekman, si Donald Trump n'avait pas accepté, si les droits de douane étaient restés à hauteur de 57%, est-ce que la Chine aurait été en difficulté ? Est-ce que c'était un enjeu pour elle que de faire baisser effectivement ses droits de douane sur l'ensemble des biens chinois?
Bien sûr, c'est pour ça qu'elle a ajouté qu'elle a affiché la menace de restriction à l'exportation des terres rares. La Chine reste une puissance d'exportation. Sa croissance, on le sait, on le dit depuis longtemps, mais demeure principalement soutenue par les exportations. Elle essaye depuis Hu Jintao, depuis maintenant plus de 20 ans, de développer sa consommation intérieure. Mais le modèle économique reste finalement déséquilibré. Et bien sûr que c'est un problème pour elle, ces droits de douane et à la fois les tensions commerciales et technologiques. Et je pense que c'est important, je comprends le propos, mais c'est important de se rappeler que dès l'adoption de droits de douane sous Trump 1, il y avait aussi des sanctions touchant indirectement les technologies chinoises. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre a toujours été commerciale et technologique en même temps, parallèle. Hein. Oui, c'est pas aujourd'hui qu'elles sont nouvellement technologiques. On se souvient bien, sous Trump 1, il avait contraint finalement les entreprises technologiques américaines à limiter leur partenariat avec des entreprises technologiques chinoises, ou en tout cas à demander autorisation avec une liste qui ne cesse de s'agrandir aujourd'hui. Donc, depuis pas mal d'années, les États-Unis parlent de découplage, y compris découplage technologique. Et en même temps, il y a des tensions commerciales très fortes sur le soja, les produits agricoles qui ne sont pas du tout technologiques. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on négocie avec ce que chacun a comme force et comme faiblesse, c'est-à-dire qu'on négocie sur les dépendances et les interdépendances. C'est-à-dire la Chine est bien consciente de la très forte dépendance du marché américain, du secteur technologique chinois aux terres rares, mais d'ailleurs comme les industriels, enfin les technologies européennes, hein, ce n'est
à partir du moment où
aux
elle
États-Unis,
donc
elle est consciente de sa position de leader sur ce marché. Et donc, elle en joue au fur et à mesure des menaces agitées par Donald Trump.
Benjamin Durbaumer, vous souhaitez réagir ?
Eh bien, ce qui est important, effectivement, c'est que cette bataille technologique, elle n'est pas du tout récente. Vous avez tout à fait raison. Et en réalité, c'était même une des dernières décisions de l'administration Obama de mettre en place un groupe de travail chargé d'assurer la supériorité technologique américaine. Donc c'est en 2016 que les États-Unis prennent conscience. Mais en 2016, on est déjà 10 ans après le changement radical de la politique chinoise en matière d'innovation. Donc les États-Unis ont mis du temps à comprendre ce qui se passe, ont ensuite commencé effectivement à imposer des sanctions, et ensuite la Chine a cherché aussi à trouver en quelque sorte un atout. Et maintenant, avec les matières stratégiques, elle l'a trouvé.
Alice Ekman, vous avez prononcé un mot qui est très important, c'est celui de découplage. C'est l'horizon à plus ou moins long terme pour la Chine et ses dirigeants. Est-ce que ça fait partie aussi peut-être d'une idée où on pourrait se dire que finalement que Xi Jinping et Donald Trump ne parlent pas nécessairement le même langage en termes de temporalité? Peut-être que pour Donald Trump, c'est là tout de suite, maintenant on veut résoudre les problèmes tels qu'ils se posent. Et Xi Jinping a dans son viseur cet horizon du découplage. Alors il faut nous expliquer ce qu'est ce découplage très concret. Concrètement, et puis si effectivement il y a une forme de décalage dans les négociations vis-à-vis des objectifs à atteindre.
Bon, le découplage, c'est un terme qui est employé par l'administration américaine depuis plusieurs administrations, en effet, et qui vise à limiter les dépendances dans différents secteurs et qui considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépendre des réseaux d'infrastructures, par exemple technologiques chinoises. On en a beaucoup parlé du découplage, notamment autour de la polémique sur les réseaux 5G de Huawei, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années. On a beaucoup parlé aussi dans les relations transatlantiques entre Washington et Bruxelles, avec une Europe qui tente à refuser ce terme de découplage, qu'elle considère trop américain, trop catégorique, qu'elle préfère le terme de dérisquage, dérisking. Je ne sais pas comment on pourrait traduire cela, mais c'est de dire on ne limite pas totalement les interdépendances, le marché chinois reste intéressant, important pour le marché européen, mais en effet, on limite les risques liés aux dépendances dans des secteurs stratégiques. Ça comprend les technologies, mais pas uniquement, domaine énergétique, domaine télécommunication, enfin la liste est assez longue. Et de manière générale, on a une Chine, en fait, qui parle sans le dire de découplage et de dérisquage depuis que la République populaire de Chine existe. C'est-à-dire que le système économique chinois n'est pas basé sur l'interdépendance. Le système économique chinois a toujours protégé les secteurs qu'il considère comme stratégiques et n'a jamais été pleinement ouvert à la coopération internationale. Et donc, aujourd'hui, on dit, mais voilà, c'est les États-Unis ou l'Europe qui parlent de réduction des interdépendances, de decoupling ou de de-risking. Et la Chine, elle, qui se positionne comme finalement le garant du libre-échange, ce qu'elle n'est pas du tout. Et donc, à l'inverse, en fait, la Chine n'a jamais été ouverte. L'économie chinoise n'a jamais été ouverte, pleinement ouverte, en tout cas telle que...
Mais elle ne veut pas non plus s'isoler totalement.
Espérer. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que de toute manière, elle aurait pris cette direction-là, qui est ce qu'elle appelle l'autosuffisance technologique. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle ne doit pas être trop dépendante des technologies étrangères, encore plus aujourd'hui, parce qu'elle a les moyens en termes d'innovation, de réduire cette dépendance. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les puissances technologiques en place s'orientent vers la même direction, qui est celle de la limitation des interdépendances, selon différents concepts, différents modèles économiques, mais inexorablement, nous serons dans un monde de plus en plus fragmenté dans les secteurs stratégiques.
Mais c'est intéressant, Benjamin Burbaumer, on pourrait se dire que finalement, tout va bien, puisque quel que soit le terme employé, de-risking ou celui plus américain, de cette idée de ne pas laisser la Chine isolée, mais ce projet de découplage, on pourrait se dire que les deux veulent la même chose. Ils veulent une forme d'indépendance l'un vis-à-vis de l'autre et pourraient se retrouver là-dessus.
C'est vrai. Le problème est que, ce faisant, chacun a son projet d'hégémonie mondiale. Donc, en quelque sorte, le marché mondial, du point de vue et des États-Unis et de la Chine, ne se partage pas. Et ça, on peut l'observer dans une série d'infrastructures, et c'est un peu ça l'idée principale de mon ouvrage, c'est que les infrastructures, c'est pas seulement les routes, les barrages, mais on a des infrastructures numériques, on a des infrastructures techniques, on a des infrastructures monétaires, et dans tous ces domaines, les États-Unis avaient la supériorité et la Chine la défie. Et donc là, cette bataille technologique s'insère pleinement dans cette bataille pour l'hégémonie mondiale.
Donc si on essaie de faire un bilan, Benjamin Burbaumer, en termes purement technologiques, en termes de découplage ou de dérisking, où en est la Chine? Est-ce qu'elle est proche de son objectif d'une forme d'indépendance?
Il est clair que la Chine, qui était un nain technologique il y a seulement 20 ans, maintenant est devenue un géant. Et en matière des technologies de l'information et de la communication, typiquement en termes de dépôt de brevets triadiques, la Chine maintenant a dépassé les États-Unis. Alors, les dépôts de brevets ne sont pas forcément un indicateur plein et entier de la qualité des brevets. Et donc, de ce point de vue-là, si vous regardez l'intelligence artificielle, le rapport annuel de l'université de Stanford montre que les États-Unis sont bien loin devant encore dans les modèles les plus performants. Néanmoins, la Chine est à peu près la seule puissance qui est capable et qui en a la volonté de concurrencer sérieusement les États-Unis.
Une volonté, une ambition qui se situait au cœur de la 4e session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois et que rappelait un haut responsable chinois lors d'une conférence de presse tenue le 24 octobre dernier.
Le 20e congrès national du Parti communiste chinois a défini un plan stratégique visant à faire de la Chine un pays socialiste, moderne, à tous les égards. Le 15e plan quinquennal est crucial en ce qu'il jette des bases solides et déploie des efforts globaux pour réaliser la modernisation socialiste. Il est très important car il tire parti des réalisations passées et trace la voie de l'avenir. À seulement 10 ans, de 2035, il est essentiel de réussir les 5 prochaines années pour prendre plus d'assurance. Nous devons agir avec un sentiment d'urgence et de responsabilité historique. Planifier scientifiquement le développement économique et social des 5 prochaines années. Saisir la fenêtre d'opportunité critique qui nous est offerte, consolider et développer nos atouts, surmonter les obstacles et remédier à nos faiblesses. Cela permettra de réaliser des avancées majeures dans les tâches stratégiques essentielles, à la cause plus large de la modernisation chinoise.
Les choses ont été clairement posées lors de l'établissement du 15e plan quinquennal adopté jeudi 23 octobre dernier. La priorité d'ici 2030, c'est d'accélérer la montée en gamme de l'économie chinoise grâce, et je cite là les termes officiels, aux nouvelles forces productrices de qualité. Alice Ekman, que faut-il entendre par là? Et est-ce qu'on peut croire à une forme d'efficacité de la planification pour l'innovation?
Pour l'instant, on dispose des grandes orientations du plan quinquennal, dont la version définitive sera publiée, diffusée en mars 2026. Mais c'est vrai que là, les orientations, c'est déjà assez intéressantes et éclairantes à analyser, puisque, comme vous l'avez entendu, le dirigeant chinois souligne l'objectif de modernisation socialiste. Donc, le critère politique est toujours omniprésent. Et elle insiste beaucoup sur l'autosuffisance. Et la force renforcée, la force en sciences et technologies, donc c'est toujours cet objectif-là, c'est-à-dire consolider les acquis, mais encore plus accélérer pour limiter la dépendance. Et ces grandes orientations se terminent toujours par un dernier point, et qui est souvent le plus important, là c'est le point numéro 7, des orientations sur maintenir le leadership, la supervision complète du parti sur les actions, les orientations qui sont précédemment indiquées, y compris donc les orientations technologiques. Donc tout cela pour dire que en termes d'efficacité, alors est-ce que cette supervision du parti est gage d'efficacité et d'obstacles? Les deux, clairement. C'est-à-dire qu'on a souvent, comme vous le savez, émis l'hypothèse que la Chine, parti unique, est parti unique qui exerce un pouvoir de plus en plus fort, même paralysant, puisque le parti fait peur, souvent à ses cadres, qui ont peur parfois de remonter les couacs internes ou les chiffres qui ne seraient pas aussi bons qu'attendus. Et donc, est-ce qu'il est paralysant? Est-ce qu'il évite à la fois l'innovation, la créativité au niveau des décideurs, mais surtout au niveau des chercheurs, des ingénieurs? Ou est-ce qu'à l'inverse, il permet justement d'accélérer l'innovation dans certains secteurs compte tenu des subventions engagées et finalement de la force de frappe, on va dire, étatique chinoise? Je pense que malheureusement, il n'y a pas trop de logique qui tienne. Il faut se garder de grandes conclusions sur l'efficacité parce que finalement, il y a beaucoup d'obstacles politiques à l'innovation. Mais pendant trop longtemps, nous avons sous-estimé les capacités d'innovation de la Chine sur des critères d'analyse politique. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on a assez de preuves, très clairement, pour dire que la Chine a rattrapé, non seulement rattrapé son retard en termes d'innovation, mais a dépassé un grand nombre de puissances. En tout cas, c'est une puissance d'innovation incontournable. Je me souviens encore, il y a 10 ans, certaines entreprises disaient, bon, l'aéronautique, il y a un transfert de technologie vers la Chine, mais pendant qu'on effectue le transfert de technologie, nous travaillons sur le prochain avion, le prochain produit. Ben, la Chine avance, elle réduit son retard, de même dans le nucléaire civil, de même dans les télécommunications. Donc, il faut faire très attention avec ce discours d'efficacité, mais c'est important de réellement noter cette volonté de la Chine. On en parlait dans l'intervention antérieure. C'est vrai, c'est vraiment une question de volonté. C'est-à-dire que ces plans quinquennaux, alors je me garderai encore d'analyse sur les efficacité ou non des plans quinquennaux, ils sont très lourds, très jargonneux, même s'ils sont intéressants d'analyser. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la Chine en tant que challenger, on va dire, la deuxième puissance économique mondiale, d'être leader dans tous les domaines, mais pas uniquement leader en termes d'innovation, mais leader en termes de puissance normative.
Et puis, il y a une la puissance normative, il y a une volonté, et il y a aussi des financements. Tout de même, Benjamin Birnbaumer, ce sont aussi des subventions qui sont mises à disposition de ces entreprises-là, qui très souvent sont financées par des organes de financement issus du parti. Est-ce que de ce point de vue-là, la structure politique même chinoise est un atout majeur en termes de politique d'innovation et donc de politique technologique?
Il me semble qu'on observe quand même un écosystème assez efficace entre des banques publiques et des planifications technologiques. Si vous regardez les données à partir de 2006, il y a vraiment un changement radical qui se met en place avec précisément cette planification, enfin ce plan pour le développement des technologies indigènes. C'est à partir de ce moment-là que ça décolle. Et effectivement, quand vous avez des banques, parce que les banques sont publiques, qui ont des exigences de rendement beaucoup moins élevées, eh bien, on peut aussi se lancer plus facilement du point de vue de l'entreprise, tant des aventures plus risquées, mais qui peuvent ensuite avoir des débouchés plus importants en termes d'innovation. Et là, on voit clairement un résultat assez fantastique. C'est impressionnant à constater que la Chine, qui ne représentait vraiment rien du tout il y a 20 ans, eh bien, aujourd'hui, elle est là où elle est aujourd'hui.
Une stratégie donc qui renforce sa position déjà de force en tant que telle et qui donc lui permet de s'affirmer lors des négociations, notamment avec Donald Trump. Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, c'est le titre de votre ouvrage, Benjamin Birnbaumer, paru à La Découverte. Alice Ekman, Ses derniers vols pour Pékin qu'on vous doit, paru chez Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, on passe à la seconde partie. On prend du recul et on retrace l'histoire longue de la pensée. Aujourd'hui, nous interrogeons les racines de notre modèle sociale avec Alain Supiot.
Nous allons à la prospérité, j'en suis sûr. Nous allons à la vie meilleure. Nous allons à la vie plus digne.
France Culture.
Quelle serait la situation de bon nombre de mes compatriotes si aujourd'hui nous n'avions pas le système de protection sociale que nous avons, qui leur permet de conserver leur dignité? Ils seraient dans un état de misère que nous aurions du mal à soutenir.
Entendez-vous l'écho?
Cette société est capable aujourd'hui, en fonction de la croissance, de fournir à tous, et si c'est possible indistinctement à tous, une profusion de biens.
Était-ce le prélude d'une ère nouvelle où l'abondance permettrait de supprimer la misère? Beaucoup d'économistes le croyaient.
Aliatovine.
La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État. L'État doit donc entourer de soins et d'une sollicitude toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la classe pauvre en général. Ces mots sont ceux du pape Léon XIII lorsqu'il rédige en 1891 son encyclique De Rerum Novarum, un État, des institutions chargées du bien-être des plus pauvres, certes, mais au nom de de quoi? De la cohésion sociale peut-être, mais de quoi est-il vraiment question? De redistribution et de justice sociale, ou de façon plus terre à terre de garantir un minimum de confort matériel aux individus au gré des traditions, des imaginaires propres à chaque nation? Progressivement se mettent en place des institutions chargées de traduire et de mettre en place cette ambition. Ainsi naissent les modèles sociaux. Qu'en reste-t-il de ces discours lorsque, notamment, d'autres discours portés par certains économistes estiment que les aspirations individuelles sont bien plus à même de garantir ce bien-être? Que se passe-t-il lorsque le marché est vu comme le meilleur coordinateur possible? Quel rôle revient alors à l'État social? Retour aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho sur la genèse des modèles sociaux et des discours qui ont justifié leur mise en place aujourd'hui avec Alain Supiot, juriste, professeur au Collège de France. Alain Supiot, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci à vous de l'avoir accepté. Alain Supiot, la raison d'être des institutions mais aussi des dirigeants est-elle de garantir le salut du peuple? Qu'est-ce qui justifie l'intervention de l'État, quelle que soit sa forme?
Il n'existe pas, il ne peut pas exister d'ordre durable qui soit fondé seulement sur l'exercice de la force. Une société se constitue à partir du moment où ses membres partagent une certaine représentation à la fois de ce qui est et de ce qui devrait être. C'est-à-dire que les règles dans une société, c'est une observation que fait le grand historien des sciences Canguilhem. Il dit la régulation d'une société, c'est pas la même chose que la régulation d'un organisme biologique, parce que dans l'organisme biologique, le principe est l'autorégulation, alors qu'une société, pour se constituer, doit se référer à un ailleurs, un horizon, qui est à la fois une limite et un au-delà. Autrement dit, les sociétés humaines ont ce que, aussi Paul Valéry, qui était juriste de formation, a appelé une structure fiduciaire. Donc il faut avoir foi ensemble dans quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une notion que vous trouvez dès le début de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons foi dans la l'égale dignité des êtres humains, par exemple. Et donc, les sociétés se constituent, et le droit est l'une de ces institutions qui permet à une société de vivre, de se maintenir et de se transformer. Ce qui fait que chacun de nous est né à la fois dans un milieu biophysique et dans un milieu institutionnel, et ces deux milieux rétroagissent l'un avec l'autre. Ce qui fait, pour répondre complètement à votre question, que le droit, je vais me référer à celle qui, à mon avis, est l'un des plus grands esprits du XXe siècle, Simone Weil. Je parle de celle qui est enterrée à Ashford, qui est morte à 32 ans à Londres.
La philosophe.
Elle situait le droit dans ce qu'elle appelait une région moyenne. C'est-à-dire, il y a le ciel des idéaux et de la justice, il y a l'enfer des rapports de force, et le droit est entre les deux. C'est-à-dire, c'est à la fois un instrument du pouvoir, mais c'est aussi un frein au pouvoir. C'est l'expression de besoins matériels, mais c'est aussi l'expression d'un certain nombre d'idéaux. C'est pour ça qu'il est si difficile de le bien penser.
Alain Supiot, je voudrais vous citer à mon tour ces quelques mots de Charles Péguy. « Sauver tous les miséreux de la misère est un problème impérieux, antérieur à l'institution véritable de la cité, tandis qu'attribuer à tous les citoyens des parts égales ou équitables de richesse est un des nombreux problèmes de la cité instituée. » On retrouve tout de même cette idée qu'il est important d'assurer le bien-être des individus qui composent la société. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'intérêt, d'intéressement même des souverains des institutions? On pourrait penser à l'Ancien Régime et se dire c'est important de garantir le bien-être des individus parce que ce sont tout simplement des forces en puissance, ce sont des bras armés qui sont potentiellement utilisables. Il est donc important de garantir leur bon fonctionnement. Est-ce qu'on peut voir les choses ainsi, Alain Supiot?
Alors, certainement, on peut aborder la question du point de vue du calcul politique, mais vous évoquiez en commençant Bossuet, vous évoquiez la doctrine sociale de l'Église qui
se retrouve
s'enracine dans Bossuet, dont, avec les éditions Les Belles Lettres, nous allons rééditer trois grands textes sur la dignité des pauvres et les devoirs des riches. Et sous l'Ancien Régime, cette question est relevée de l'autorité de l'Église, qui était autre chose que le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il y avait eu dans cette grande distinction, auctoritas potestas, le pouvoir politique s'exerce quand même sous l'ombre portée d'une autorité religieuse, et c'est l'Église qui était en charge du soin des pauvres et de rappeler aux puissants ce qu'ils devaient aux pauvres.
Alain Supiot, vous venez d'évoquer effectivement cette nouvelle édition des écrits de Bossuet, dont voilà, vous avez rédigé une très large introduction pour commencer. Pourquoi c'est important? Pourquoi avez-vous eu envie de retourner à Bossuet? Pourquoi c'est important de mobiliser sa pensée aujourd'hui?
Bon, écoutez, consacrer une demi-heure à lire Bossuet donne plus à réfléchir que passer 10 semaines à écouter les plateformes des télévisions, si vous voulez. Donc, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé. J'ai pas une grande sympathie personnelle pour Bossuet, peu importe.
Oui.
Mais d'abord, il écrit dans une langue magnifique et ça nous donne à comprendre sur le long terme les situations présentes, parce que le droit, c'est un fait de culture qui s'inscrit dans le temps long. Et pour le dire là, à la façon de Tocqueville, si le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres.
Ce qui est une leçon effectivement à retenir pour nos jours actuels. Vous évoquez, Alain Supiot, dans votre leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 29 novembre 2012, un autre mécanisme, celui de l'indemnisation des accidents du travail, mis en place notamment en Autriche-Hongrie en 1887, qui en disent long, selon vous, sur les enjeux du droit social, sur la nécessité des barrières qui l'érigent pour éviter que trop d'injustices n'ouvrent les vannes du désir aveugle de tout mettre à sac. Vous reprenez là aussi les mots de Kafka, mais je renvoie les auditeurs, les auditrices vers cette référence. Est-ce qu'on peut dire que l'intérêt aujourd'hui d'assurer le bien-être des individus qui composent la société et donc un minimum de justice sociale est d'éviter justement de tout mettre à sac, pour reprendre vos mots?
C'est certainement l'un des moteurs des transformations politiques du 19e siècle. Il faut bien comprendre, nous avons parlé tout à l'heure de cet horizon, de cet ailleurs auquel une société se réfère, ce que Kassoriadis appelait l'institution imaginaire de la société. C'est qu'à un moment donné de l'histoire, l'imaginaire artistique, l'imaginaire scientifique et l'imaginaire juridique vont de pair. Et ce qui apparaît avec la révolution industrielle, c'est l'idée de voir la société tout entière comme une vaste horlogerie dont les êtres humains ne seraient que des rouages. Et ceci est préparé par les révolutions juridiques se fondent sur une poussière d'individus inscrits dans l'État. Donc c'est à la fois l'homme et le citoyen, hein, dans la déclaration de 89. Et les auteurs ne savaient pas ce dont ils étaient en train d'accoucher, ce qu'a été la révolution industrielle, qui a effectivement arraché, déraciner des masses humaines entières des campagnes pour les précipiter dans ce que Marx appelait le despotisme de la fabrique. Et cela a choqué à la fois, j'allais dire, le monde des idées, pour reprendre cette idée de la région moyenne, les idéaux de justice, a choqué. Je pense que l'un des ressorts du travail de Marx, c'est qu'il avait un sentiment de profonde injustice. Et puis, ça a aussi secoué l'ordre établi, puisque le 19e, c'est les révolutions successives, 1830, 1848, 1870, etc. Et donc, les deux jouent, c'est-à-dire vous avez de la colère sociale, mais si elle n'est pas canalisée à un moment donné, elle peut déboucher dans la violence pure, ou bien, ce qui a été le cas au XXe siècle, dans des expériences totalitaires. D'où l'importance quand même du travail de la pensée pour, à partir des énergies mobilisées par la colère sociale, accoucher d'un monde un peu moins injuste, et c'est ce à quoi on s'est employé au XIXe siècle. Alors, vous évoquiez les lois sur les accidents du travail. C'est un point très important. Il n'y a pas qu'en Autriche-Hongrie, effectivement, bien j'avais sûr, cité, c'est à cause de Kafka, qui a passé toute sa vie quand même professionnelle à s'occuper de ce sujet. C'est une mutation du droit de la responsabilité qui est intervenue, qui a été l'un des pivots de ce retournement, de l'invention du droit social. C'est-à-dire, on n'est pas seulement responsable des fautes qu'on commet, mais aussi des outils qu'on manipule. Alors ça doit nous poser des questions pour nous aujourd'hui, parce que nous vivons une nouvelle révolution, qui est la révolution numérique, qui pose de nouveaux problèmes en termes de responsabilité. Et notre système actuel de droit de la responsabilité n'est pas à la hauteur des défis écologiques et technologiques que nous avons à affronter.
Elle est intéressante, Alain Supiot, tantôt cette question de ce qu'encadre le droit social. Vous le dites encore une fois dans votre leçon inaugurale, et c'est ce qui se cristallise aussi dans ce 19e siècle qui voit la paupérisation de la société avancer de façon absolument gigantesque. Vous le dites, le droit social s'instaure parce qu'il protège la santé et la sécurité physique et économique sur le temps long de la vie humaine. Mais Alain Supiot, est-ce qu'il faut s'en réjouir? On peut se dire que d'un côté, ce droit social permet de domestiquer les machines, et ça vaut aussi pour le numérique, comme vous le disiez à l'instant. Cela les met au service du mieux-être des hommes. Mais d'un autre côté, cela rend économiquement et politiquement durable l'exploitation du travail comme marchandise. Il y a ces deux pendants. Est-ce que ça ne semble pas être un lourd tribut à payer?
Alors, de fait, vous touchez le doigt sur l'une des failles, je veux dire, de l'imaginaire du capitalisme libéral, et qui a été mis en évidence par le grand économiste Karl Polanyi, qui a consisté à traiter comme des marchandises des choses qui sont absolument pas des marchandises, et que dans l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais considéré comme des marchandises. Considérer la terre comme une marchandise à disposition, alors que nous sommes bien peu de choses posées sur elle, c'est vraiment un fantasmatique, si je puis dire. Et de même, considérer le travail comme une marchandise dissociable de l'être humain au travail et qui pourrait être disponible 24 heures sur 24 comme du courant électrique. Alors, c'est bien comme ça qu'on a commencé à faire, à partir de l'invention de l'éclairage artificiel, se dire, les gens, on va pouvoir les faire travailler quasiment 24 heures sur 24. Et à ce moment-là, vous vous heurtez au réel. C'est-à-dire, vous heurtez, et ça c'est une notion à laquelle, qui me paraît assez éclairante, c'est celle de limite catastrophique. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de se donner à soi-même des limites qui sont appelées par l'état du réel, eh bien, vous allez rencontrer la catastrophe. Si, par exemple, vous êtes monsieur Boeing et que pour vous, le business plan, ça devient le bas de bilan, et que vous n'en avez pas d'autre, vos avions vont finir par s'écraser au sol. Donc, vous allez rencontrer la limite catastrophique d'un modèle économique qui n'est pas bon. Et au fond, le droit social, effectivement, a permis de faire rentrer l'économie de marché dans son lit en lui posant des bornes. Et ça s'est fait sous des formes différentes selon les pays. Et on oublie souvent le rôle absolument crucial qu'ont joué les États-Unis et le New Deal dans ce mouvement, puisque c'est eux qui vont être, au fond, c'est Roosevelt qui, dans son dernier discours en janvier 44, peu avant de mourir, appelle à une nouvelle déclaration des droits, qui appelle la déclaration de 1948, qui introduit cette idée d'égale dignité et des droits économiques et sociaux.
Vous l'avez dit, cela se fait de façon très différente en fonction des pays. Qu'est-ce qui prévaut, Alain Supiot, lors de l'instauration de ces différents modèles sociaux? Est-ce qu'on prend en compte des formes de traditions religieuses, des traditions nationales? Qu'est-ce qui explique, par exemple, la spécificité du modèle français par rapport au modèle britannique ou au modèle allemand? Comment se construit, finalement, un modèle social?
Alors, il faut d'abord commencer par rappeler que tous ces pays sont face aux mêmes questions. Et chacune va bricoler sa réponse, si je puis dire, dans un sens, et c'est très important pour des dirigeants politiques et économiques d'être conscients des modèles dans lesquels ils s'inscrivent. Parce que si vous vous trompez, si vous pensez, par exemple, que vous allez pouvoir faire des Grecs, des Allemands, ou des Français, des Suédois, vous êtes condamné, ou des Danois, je ne sais pas, vous êtes condamné à l'échec. C'est-à-dire que les institutions s'inscrivent dans une histoire, dans une culture, dans des langues, etc. Donc, au fond, il y a différents modèles, mais qui répondent aux mêmes questions. Je souligne ça parce que ça explique les influences mutuelles que l'une peut. C'est pas des choses qui sont cloisonnées l'une vis-à-vis de l'autre. Alors, à grands traits, on pourrait dire, si je prends trois exemples, la France, pays qui était resté catholique, et donc c'est l'Église qui avait continué de s'occuper, par exemple, des hôpitaux, qui continuent de porter souvent des noms, l'hôpital Saint-Louis, la Pitié, etc. Donc l'État va prendre la place centrale qui était celle de l'Église, donc c'est un modèle statocentré. Cela dit, ce n'est qu'une partie du modèle, parce que l'autre partie, c'est la tradition mutualiste, incarnée par Proudhon au 19e siècle, mais que l'on voit à l'œuvre, justement, chez Simone Veil, par exemple, au 20e, et qui se méfie de l'État et qui mise plutôt sur les capacités d'auto-organisation des personnes. Donc, par exemple, si vous prenez le modèle de sécurité sociale, le modèle anglais qu'avaient pu voir les pères de la sécurité sociale, puisqu'ils étaient à Londres, est totalement étatisé. Le modèle français, sa distinction, c'est qu'il fait place à la démocratie sociale, donc à l'idée d'autogestion des régimes. Et ce à quoi on assiste actuellement, c'est une tendance à l'étatisation. On aura peut-être le temps d'y revenir. L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne, dès Leibniz, excusez-moi de revenir...
Il faut.
C'est, vous voyez, Leibniz, c'est pareil. C'est plus intéressant de lire Leibniz que d'écouter CNews. Leibniz lui-même, il a une conception des sociétés comme des communautés de communautés. Et ça va marquer profondément le modèle allemand, qui est un modèle à base communautaire. Donc l'État est garant de solidarité communautaire, au lieu d'être le garant de l'égalité politique et économique. Et si je prends le troisième exemple, qui est le cas américain, c'est encore autre chose, parce que eux, c'est les héritiers des calvinistes. Et pour Calvin, la pauvreté, c'est la marque du péché. C'est la marque de la damnation éternelle. Donc, ils ont ce qu'ils méritent. Donc, il y a d'où cette réticence au système redistributif qui continue de marquer assez profondément le cas américain.
Vous avez mentionné deux termes, deux notions très importantes et qui nous rappellent effectivement que finalement tous ces pays-là ont été confrontés aux mêmes questions. C'est ce que vous nous disiez, Alain Supiot. Il y a cette notion de solidarité communautaire, c'est ce que vous disiez à l'instant, et cette notion d'égalité politique et économique. Moi aussi, je vous propose de revenir aux sources et d'écouter ce que Montesquieu avait à nous dire de cette conception de la solidarité. Il le fait en 1721 dans ses Lettres persanes et il nous explique tout cela à travers l'histoire des troglodytes.
Il y avait en Arabie un petit peuple appelé troglodyte qui descendait de ces anciens troglodytes qui, si on en croyait les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits, ils n'étaient point velus comme des ours. Ils ne sifflaient point, ils avaient deux yeux, mais ils étaient si méchants et si féroces qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni de justice. Ils avaient un roi d'une origine étrangère qui voulait corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévèrement. Mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent et exterminèrent toute la famille royale. Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement. Et après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus, qu'ils devinrent insupportables. Et ils les massacrèrent encore. Ce peuple libre, de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu'ils n'obéirent plus à personne, que chacun veillerait uniquement à ses intérêts sans consulter ceux des autres. Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient « Qu'ai-je à faire d'aller me tuer à travailler pour des gens dont je me soucie point ? Je penserai uniquement à moi, je vivrai heureux, que m'importe que les autres le soient ? Je me procurerai tous mes besoins, et pourvu que je les ai, je ne me soucie point que tous les autres troglodytes soient misérables. » On était dans le mois où l'on ensemence les terres, et chacun dit « Je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse le blé, qu'il me faut pour me nourrir. Une plus grande quantité me serait inutile, je ne prendrai point de la peine pour rien. » Les terres de ce petit royaume n'étaient pas de même nature. Il y en avait d'arides et des montagneuses, et d'autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs roseaux. Cette année, la sécheresse fut très grande, de manière que les terres, qui étaient dans les lieux élevés, manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles. Ainsi, les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte.
On le voit dans cet extrait des Lettres persanes, Alain Supiot, la soif de richesse est à l'origine de la dislocation de certaines catastrophes, bon, en l'occurrence naturelles, mais c'est parce qu'il y avait cet égoïsme qui est très présent, cette idée de veiller uniquement à ses intérêts. C'est en cela que l'on a besoin de lois, puis d'institutions telles que se sont mises en place aussi au moment de cette mise en place de l'État social. L'idée, c'est de lutter contre un espèce de penchant naturel de l'homme. Est-ce que c'est cela qui justifie la mise en place de ces lois et de cet État social ?
Oui, alors l'histoire des troglodytes, elle est une réponse directe, à peu d'années près, à un autre conte philosophique qui joue un rôle extrêmement important dans l'histoire de la pensée économique, qui est la fable des abeilles de Mandeville, dont la morale est de dire les vices privés vont faire la vertu publique. Ça, c'est la racine protestante, où on voit que la providence divine va métamorphoser les égoïsmes en bien-être général. ce qui reste, disons, au cœur de la doctrine contemporaine. Et Montesquieu, dont on dit toujours, et à juste titre, qu'il va défendre les vertus du doux commerce, on oublie toujours de dire qu'il dit qu'un système démocratique est suspendu au fait que l'on maintienne des écarts de richesse. D'abord, il faut de la solidarité, c'est clair dans ce texte, et il faut aussi maintenir un faible écart. Il écrit ceci, il faut que les lois divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou acquérir. Donc vous voyez que, et bon, on trouve chez Rousseau des passages comme ça, la philosophie des Lumières sont des gens qui sont conscients que laisser prospérer de trop grandes inégalités économiques sera nécessairement la source de désordre politique et de la ruine de la démocratie.
Alors là, Alain Supiot, vous me fournissez un pont vers notre période contemporaine, puisque le débat est toujours en cours. On a beau avoir instauré un certain nombre d'institutions, un État social que d'aucuns qualifient de fort aussi, le débat vaut toujours. Alors je vous propose d'écouter une autre voix, c'est celle de Gabriel Zucman qui était au micro de France Culture lundi dernier.
Le fait que le Français moyen paye 51% de ses revenus en prélèvement obligatoire, tout prélèvement compris, ça reflète nos choix en matière de modèle social. Choix dont, de mon point de vue, il faut se féliciter, car tout démontre qu'ils ont été au cœur de la croissance de la productivité, en particulier l'investissement dans l'éducation, dans les services publics, dans les infrastructures, mais aussi au cœur du mouvement historique vers plus d'égalité, et aussi au cœur des mouvements vers plus de démocratie. Pour les milliardaires, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 13%. Mais vous voyez que, quelle que soit la façon dont on regarde les choses, c'est nettement moins que ce que paye le Français moyen, et même les classes moyennes et les classes populaires. Tout compris, 51% pour le Français moyen, contre 25% pour les milliardaires. Et là, il y a cette anomalie que j'expliquais, au sens où cette inégalité vient bafouer le principe qui, en France, a valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt. Pourquoi ? Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 13, pose le principe d'égalité devant les charges communes. Et cette Déclaration des droits de l'homme, elle est reprise en préambule de la Constitution de la Ve République. L'interprétation minimaliste qu'on peut faire de ce principe, c'est que l'impôt ne devrait pas pouvoir être régressif. C'est-à-dire que les gens très fortunés ne devraient pas pouvoir payer moins que les catégories sociales situées en dessous d'eux. Or, c'est précisément ce que les études récentes ont mis en lumière. Nos lois fiscales ne respectent pas notre principe d'égalité devant l'impôt.
Alain Supiot, quel regard portez-vous sur les débats en cours concentrés autour de la taxe dite Zucman ? C'est la preuve que finalement, ce à quoi pensaient Montesquieu, Bossuet aussi en son temps, valent toujours aujourd'hui malgré les institutions mises en place.
Alors, je sortirais de mon domaine de compétence si je donnais un avis technique sur la pertinence de la taxe.
Non, parce que ça nous dit sur la place de la justice.
Mais en revanche, sur la question qu'il pose, cette question-là, elle est pertinente. Il est clair que l'évolution depuis 30 ou 40 ans a consisté à faire peser de plus en plus le poids de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, qui est une notion un peu obscure des fourre-tout, parce qu'on y met aussi bien les cotisations sociales que les impôts, de plus en plus sur le travail, sur les revenus du travail, et de moins en moins sur les revenus du capital. Et ça, il n'y a pas que M. Zucman qui le dit. J'ai vu que M. Antoine Fouché, qui est l'ancien directeur de cabinet, qui a des livres très stimulants d'ailleurs, dans la période contemporaine, fait le même constat. Donc il faille rétablir un équilibre, surtout de la part de ceux qui disent qu'il faut défendre le travail, ça, la question me paraît de fait être posée. Mais le point aveugle du propos de, par ailleurs très pertinent, de l'analyse que on vient d'entendre, c'est quelle est la marge de manœuvre de l'État en France en régime néolibéral, où les États ne sont plus des États souverains, mais ils sont ce que j'appelle, moi, des États de marché. C'est-à-dire qu'ils sont des instruments au service de choix de politique économique qui ont été soustraits aux choix électoraux. par des méthodes diverses, et dans le cas de l'Union européenne, on a mis les politiques économiques dans les traités, on les met ainsi à l'abri des électeurs, si je puis dire. Ce qui ne peut que faire naître une colère sourde, une délégitimation progressive des institutions européennes. Et ça, le constat que je vous fais là, c'est pas moi qui l'ai fait le premier, c'est le grand constitutionnaliste allemand Dieter Grimm, qui a écrit un livre il y a presque 10 ans maintenant, qui s'intitule en allemand « L'Europe, oui, mais laquelle ?», où il disait « Si l'on veut sauver l'Europe, il faut remettre l'économie dans le débat politique. »
Alain Supiot, pour terminer cette discussion, quel serait, quel devrait être le rôle de l'État social aujourd'hui? De quoi devrait-il se préoccuper? On parlait de la marchandisation du travail. Est-ce que ça doit faire partie, effectivement, de ses priorités?
Alors, deux choses. La première, c'est que ce qui caractérise la révolution néolibérale par rapport au libéralisme classique, c'est d'avoir renversé la hiérarchie du public et du privé. Encore chez Mandeville, il dit oui, il faut laisser faire le vice, mais enfin dans le cadre quand même que, où les pouvoirs publics vont tracer. Aujourd'hui, on a eu ce retournement du public et du privé qui fait des États, ce que Lénine aurait appelé des demi-États, qui sont chargés de mettre en œuvre ce qui est censé être les lois immanentes du marché, la seule instance souveraine étant le marché. Donc, le premier pas indispensable à toute espèce de réforme consiste à revenir, à réemboîter les deux. Si vous voulez, si vous allez à Padoue, vous verriez un magnifique palais de la raison, ça s'appelle. Et qu'est-ce qu'il y a en bas de ce palais de la raison? Il y a le marché. Et l'étage au-dessus, il y avait l'administration communale. Et l'étage encore en dessus, les juges avec les instruments de poids et mesure. On a retourné le bâtiment, donc ça ne va plus. Deuxième chose, élément de réponse, c'est les questions du jour. Il faut relire Simone Veil. Notamment, c'est face aux révolutions, à la révolution numérique. Comment on va rouvrir la question qu'avait essayé d'ouvrir Simone Veil, lorsqu'elle disait il y a deux formes d'injustice dans le régime capitaliste, c'est l'exploitation économique, les gens ne sont pas payés assez, mais il y a aussi l'oppression au travail, c'est-à-dire ils ne sont pas en état de mettre une part de leur intelligence dans ce qu'ils font. Et ça, ça s'aggrave avec la révolution numérique qui engage une emprise cérébrale sur les individus. Donc ça, c'est une des grandes questions. Comment est-ce qu'on peut regagner la liberté dans le travail, c'est-à-dire mettre nos outils au service de notre intelligence au lieu de considérer que nos intelligences ne sont que le prolongement de machines à calculer.
Merci infiniment Alain Supiot d'avoir participé à cette discussion. Je renvoie les auditeurs à nombre de vos ouvrages qui seront disponibles sur la page du site d'Entendez-vous l'écho. Et tout de suite, place au fil d'Arnaud Aurin.
Le fil écho.
Tout le monde ne devrait pas avoir peur de l'inflation. Vous l'avez constaté dans les rayons des supermarchés, la France, comme beaucoup de pays, a connu une hausse des prix importante entre 2021 et 2024. En économie, on parle d'inflation lorsque les prix augmentent, de déflation lorsqu'ils baissent et de désinflation lorsqu'ils augmentent moins vite qu'auparavant. Dans les dernières décennies, la France a connu une inflation inférieure à 2% par an. Elle est montée à 5-6% en 2022 et 2023. Or, l'inflation, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La plupart des économistes mettent en avant deux raisons qui doivent conduire à lutter contre l'inflation. La première, c'est que la hausse des prix amputerait le pouvoir d'achat des ménages. La seconde, c'est que cette même hausse des prix pénaliserait les épargnants. Ils pourraient acheter moins de choses avec l'argent mis de côté. Les banques qui ont accordé des crédits se retrouveraient, elles, remboursées progressivement en monnaie de singe. Mais ces deux arguments sont en fait discutables, car comme toujours, tout dépend de quel côté on se place. Le pouvoir d'achat des ménages n'est pas amputé si les salaires et les pensions sont indexés sur l'inflation. Autrement dit, s'ils augmentent aussi vite ou plus vite que les prix. C'était le cas jusqu'au début des années 1980. Avec l'indexation, les libéraux craignent la boucle prix-salaire. Autrement dit, une hausse sans fin des coûts des entreprises du fait de la croissance des salaires. Or, si l'on en croit un rapport de 2022 du Fonds monétaire international, fonds qui n'est pas vraiment un gang de gauchistes, cette boucle inflationniste n'a jamais existé au XXe siècle, encore moins au XXIe. Alors pourquoi lutter contre l'inflation? Parce que le vrai problème réside dans la redistribution des richesses qu'elle provoque. Deux épisodes historiques sont à ce titre significatifs. Dans les années 1718-1720, la première Banque de France émet des quantités gigantesques de billets pour financer les projets grandioses de l'Écossais John Law. L'argent coule à flot, l'économie est prospère, une forte inflation commence. Le papier-monnaie perd de sa valeur. La banque émet alors toujours plus de papier et de plus grosses coupures. C'est alors que commence un phénomène inédit, même dans de petits villages. Les Français se rendent chez le notaire, chez le seigneur, chez le bourgeois. Et ils remboursent de vieilles dettes avec des billets dont la valeur est devenue très faible. Beaucoup de dettes privées et une partie de la dette publique s'éteignent pour toujours. Sous la Révolution, même scénario. Pour financer les dépenses de l'État alors que les impôts ne rentrent plus, les révolutionnaires émettent toujours plus de papier-monnaie, les assignats. L'inflation s'emballe et la valeur des assignats baisse fortement à partir de 1794. Dans les campagnes françaises, on assiste alors à un vaste remboursement de dettes en assignats dépréciés. L'inflation de 1720 et celle de la Révolution ont permis un désendettement massif. Dans les deux cas, les riches ont dénoncé un monde à l'envers, une atteinte intolérable à la propriété privée. Certes, il y a eu, et il y a des perdants avec l'inflation, les créanciers et les banquiers. Mais de fait, l'inflation est le meilleur moyen d'éteindre en partie ou en totalité les dettes publiques et privées. Si les salaires étaient indexés sur elles, tout le monde ne devrait pas en avoir peur. Bien au contraire.
Merci beaucoup Arnaud. Le fil de l'écho est à retrouver sur la page qui lui est dédiée sur le site de France Culture et bien sûr sur l'application Radio France, ce qui est aussi le cas de cette émission. Un grand merci à Tina Young et Valentin Gris qui ont préparé cette émission et à Sorge Leroy qui l'a réalisée et mise en onde.